CQFD.
Séquence jeu à présent dans CQFD, jeu de billes, jeu de sleigh, jeu de ballon, jeu de plateau. Le jeu existe depuis toujours, mais comment jouait-on dans l'Antiquité? Et qui s'amusait notamment au temps des Romains? Est-ce qu'il y avait que les enfants ou est-ce que les adultes avaient aussi le droit de jouer? À ces questions multiples, des archéologues nous répondent dans le dernier volet d'une série d'expositions qui se déroule au musée romain du Vallon, Cécile Guérin.
Oui, et pour parler de jeu, on va se rendre sur les lieux d'une ancienne villa romaine. Alors à Vallon, nous sommes en 250 après Jésus-Christ, tout près d'Avenches, qui est la capitale de l'Helvétie. Et sur ce site, les archéologues ont trouvé des petits trésors ludiques. Toute la difficulté consiste à imaginer les règles des jeux de l'époque.
Pour évoquer ces recherches autour des jeux de l'Antiquité, nous recevons Ulrich Schädler. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conservateur du musée du jeu à la Tour de Paix. C'est assez rare des archéologues qui s'intéressent aux jeux, alors qu'en fait, on se dit, c'est intrinsèque, c'est en nous, quoi. On a toujours, de tout temps, j'imagine, joué aussi à l'Antiquité.
Oui, tout à fait, mais pour les sciences, pour le milieu scientifique, le jeu n'était pas tellement un sujet tellement intéressant.
C'est un petit peu, voilà, c'est
un peu oui, à côté. Un petit peu marginal, ouais. Voilà, et donc... Voilà, il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui s'occupent de ça.
Alors, il y a des exemples, heureusement, concrets, hein, présentés au public à la Villa Romaine de Vallon. Cécile Guérin, les archéologues qui ont fouillé les restes de la maison ont découvert des billes, notamment.
Oui, 4 billes. Et ils en sont très, très fiers. Et c'est exceptionnel comme trouvaille et c'est surtout très rare. On écoute Clara Agustoni, qui est conservatrice adjointe du musée du Vallon.
Nous en avons trouvé 4, dont une fragmentaire en pierre. Je pense que c'est ça qui a permis d'une part, bien sûr, de les conserver, et d'autre part, la chance aussi de les reconnaître, hein, parce que c'est pas
parce
évident.
Que là, comment on pourrait décrire, on les voit, hein, ces 4 billes, celle sur la droite, là, on la voit, c'est une petite bille, on va dire, de la taille des billes de maintenant, et puis à côté, il y a des, je sais pas comment on les appelle, des calots, ou comment on dit.
Ce sont des sphères plus grandes, effectivement, donc c'est pas parfaitement rond. Hein. Je rappelle que c'est de la pierre. Donc on a dû quand même les façonner et les arrondir, bien évidemment, pour qu'elles puissent rouler.
Comment vous savez que ce sont des billes avec lesquelles les enfants ou les grands jouaient?
Alors ça, c'est une bonne question, effectivement. Moi, je dis toujours qu'un objet qui arrive dans un musée est un miracle à plusieurs occasions. D'une part, il faut que le fouilleur sur le terrain... Et le réflexe de dire, tiens, ça, c'est pas quelque chose de normal, donc c'est pas un caillou quelconque, et qu'il le ramasse, en fait, qu'il le garde. Ensuite, au nettoyage, l'attention qu'on porte aussi, là, c'est de la pierre, donc c'est pas très délicat. Et enfin, lors de l'étude, l'archéologue qui étudie ces objets doit pouvoir se poser les bonnes questions et surtout essayer de trouver les bonnes réponses. Et là, toute la difficulté, c'était de trouver des comparaisons.
Et pourquoi c'est rare de trouver des billes?
Alors, il semblerait certainement qu'on pouvait jouer avec d'autres objets sphériques ou arrondis. On connaît tous les jeux de noix, par exemple, qui sont fréquents à l'époque romaine et à l'époque grecque aussi. C'est typique de l'enfance. Ce sont les enfants qui jouent avec des noix. Est-ce qu'on jouait avec des noix pour jouer aux billes? Ça, c'est difficile à dire, mais c'est une hypothèse également. Et puis, probablement qu'on façonnait ces billes ou ces objets aussi avec d'autres matériaux périssables qui ne nous sont pas parvenus ou que, tout simplement, on ne l'a pas reconnu.
On ne faisait pas, bien sûr, à l'époque de billes en verre.
Pas à ma connaissance, non. Alors, à défaut de connaître d'autres exemples de billes, on connaît des pistes de billes. Et ça, on les trouve gravées sur les monuments publics, par exemple en Italie, à Rome, ou en Asie mineure, donc l'actuelle Turquie notamment.
Alors, une piste de billes, on en a une juste à côté. C'est une espèce de plaque sur laquelle on a fait des trous, puis il faut lancer la bille pour qu'elle arrive dans le trou.
Oui, pour qu'elle atteigne le dernier trou tout au bout, donc le but. C'est l'un des jeux pour lequel on n'a pas de témoignage écrit, on n'a pratiquement pas d'informations. Donc on a fait une proposition de restitution de règles. Donc en fait, on restitue le jeu sur la base de comparaisons avec des jeux semblables qui existent toujours de nos jours. Et enfin, on fait de l'expérimentation, c'est-à-dire qu'on commence à jouer avec les règles qu'on a restituées pour voir si ça tient.
En fait. Et si on s'amuse.
Et on s'amuse.
On essaye alors. On est sur une plaque de marbre qui est creusée. Et puis, on lance la bille depuis le départ. Et puis, tac. J'ai raté aussi. Et pourquoi est-ce important de savoir comment on joue aux billes à l'époque romaine?
Alors, je dirais d'une façon générale, pourquoi c'est important de savoir comment on jouait. Je pense que c'est un reflet de la société, je dirais. Ça nous permet de voir tout d'abord qui joue. Les joueurs, donc, est-ce que c'est des adultes? Est-ce que c'est des enfants? On pense toujours que c'est les enfants qui jouent. En fait, on sait que les adultes adoraient aussi, et de nos jours encore, donc, on adore jouer. Je dirais, c'est rare que quelqu'un n'aime pas jouer. Ça nous permet aussi de voir s'il y a des différences entre les sexes, s'il y a des différences entre les classes sociales. Donc, on sait qu'en fait, c'est quelque chose de très répandu. Pour preuve, tous les objets qu'on découvre. Quant à savoir après comment ça se passait, c'est vraiment de la recherche encore en cours, je dirais.
Clara Agustoni, conservatrice adjointe du musée du Vallon. Donc là, nous avons des billes, nous avons des pistes de billes, mais pas encore les règles du jeu. Ulrich Schädler, je rappelle que vous êtes conservateur du musée du jeu à la Tour de Paix. Vous avez découvert donc des pistes de billes gravées dans la pierre, mais il n'y avait pas les règles, voilà, avec. Du coup, vous avez fait comment? Il faut jouer, puis du coup, un peu déduire petit à petit les règles qui devaient être en vigueur à l'époque.
Bon, c'est un petit peu comme ça, n'est-ce pas? Donc, imaginez-vous, vous trouvez, disons-nous, un damier avec des pions blancs et noirs, mais pas les règles. Donc, qu'est-ce que vous faites pour savoir comment on a joué avec ça? Donc, c'est pratiquement impossible, n'est-ce pas? Vous ne savez pas comment on a. Vous ne savez déjà pas, est-ce que les pions que vous avez trouvés, le nombre de pions, est-ce que c'est le nombre de pions, est-ce qu'ils sont complets, voilà, ou pas? Est-ce que pour le jeu, on avait besoin d'un dé qui peut-être ne s'est pas conservé simplement ou qui s'est perdu? Et vous n'avez aucune idée comment bouger les pions, quel est le but du jeu, est-ce qu'on peut capturer les pièces de l'autre ou pas, et si oui, comment, voilà, etc., etc. On ne sait pas. La seule chose qu'on peut faire, c'est comparer en fait ce matériel avec des jeux existants, avec les jeux qu'on connaît mieux, voilà, et en déduire un peu des parallèles ou quelques mécanismes.
Bien et comparer, évidemment, J'imagine, avec d'autres découvertes qui ont été faites. Exactement. De la même époque, ailleurs.
Oui, ou même d'autres époques ou ailleurs, n'est-ce pas?
Mais donc, sur les pistes de billes, vous êtes le seul à dire, finalement, mon hypothèse, c'est que c'est une piste de billes et on jouait comme ci, comme ça.
Oui, alors, oui. Oui, en fait, parce qu'on les trouve un peu partout dans l'Empire romain, et ils ont toujours la même structure. Et on peut clairement savoir où la piste commence et où ça termine, et donc et avec les petits trous qui se trouvent sur cette piste, n'est-ce pas, manifestement ce sont des obstacles, mais précisément vous pouvez jamais savoir comment ils ont joué. Mais on a dans ce type de recherche ou de ce type de reconstitution, on a bien évidemment un élément qui est toujours décisif, quoi que soit votre reconstitution des règles. Finalement, ça doit fonctionner.
Et on doit s'amuser.
Voilà, faut s'amuser avec, n'est-ce pas? Ça doit devenir un jeu intéressant ou de toute façon qui fonctionne, n'est-ce pas? Si la règle que vous avez imaginée ne fonctionne pas, voilà, ça marche pas.
Bastien,
est-ce que c'était un jeu d'enfant ou les adultes jouaient aussi?
Alors, je pense, en fait, là, c'était plutôt les adultes qui jouaient à ça. J'ai l'impression, parce que ces pistes se trouvent sur les places publiques, les marchés de temples, sur le forum à Rome, par exemple, qui est surtout un lieu de rencontre d'adultes, en fait, n'est-ce pas?
Le hasard veut que nous ayons aujourd'hui en coulisses la visite d'une classe de 6e Armos de Chèbre. On les entend pas, mais ils sont derrière nous, ils sont devant nous, ils sont en régie, ils découvrent le monde magique de la radio. Des enfants, Cécile, qui vous ont soufflé, je crois, quelques questions à poser à Ulrich Schädler.
Oui, notamment, est-ce que justement, si les adultes jouaient aux billes, est-ce qu'ils jouaient, on ne sait pas si les adultes jouaient avec les enfants à l'époque romaine?
Alors, il y a quelques rares exemples où on a des informations par rapport à ça, mais normalement, à l'époque romaine ou aussi dans la culture grecque, il y avait des jeux pour les adultes et les jeux pour les enfants. Et les enfants jouaient entre eux et les adultes jouaient normalement entre eux. Et ils jouaient également à des différents jeux, différents types de jeux. Même qu'il y a, par exemple, le fameux terme romain « nuces relinquere », ça signifie un enfant à l'âge, quand il est entré dans le monde des adultes, environ 15 ans, ils ont offert les jeux et jouets de l'enfance, par exemple à la déesse Diana ou Artemis, n'est-ce pas? Nouquet, ce sont les noix, parce que les enfants, ils ont beaucoup joué aux noix. Et à cet âge-là, donc, ils ont laissé, ils ont abandonné les noix. Ça signifie devenir adulte. Et maintenant, on joue à d'autres jeux, n'est-ce pas? Et plus aux jeux de noix, qui sont typiquement des jeux pour les enfants.
Alors, typiquement, il y a un jeu, là, on va jouer aux osselets, parce que les osselets, c'est aussi un jeu où on peut jouer avec des règles différentes si on est enfant ou adulte. Alors, moi, je vais essayer le jeu des enfants, qui est notamment le Pentelita. J'ai appris ça, donc j'ai 5 osselets, puisqu'au Vallon, les archéologues ont trouvé un osselet seulement. Là, j'en ai 5, mais c'est des osselets modernes, hein. Ils sont métalliques. Ouais. Ils sont plus en os, hein. Un osselet, c'était un petit bout d'os d'un mouton, en fait.
Ouais, là, ça ressemble plutôt à une espèce de petit fer à repasser en miniature.
Ouais, un petit fer. Ça ressemble, en fait, il y a 4 faces. Ça ressemble un petit peu à un dé un petit peu bizarre, ancien, on va dire. Et alors, il y avait un jeu qui s'appelait le Pentelita. C'était les filles qui jouaient à ça. Il faut lancer les osselets. Je vais essayer et les récupérer sur le dos de la main. Alors, attention.
Donc là, vous les avez dans la paume, mais
je les ai dans la paume, mais je dois tourner la main rapide. Hop. Waouh.
Ah, pas mal.
J'en ai 3 sur le dos de la main.
Qui sont restés sur votre dos de la main, les autres entendaient.
Et donc, à chaque fois, après, on compte les points, si on a récupéré celui-là, après. Enfin, moi, je suis devenue une experte aux osselets, mais je pense qu'il faut que je m'entraîne encore un peu. Les enfants d'aujourd'hui, ils ne jouent plus, mais c'est un Ulrich Schedler, les osselets, c'est un jeu millénaire.
Oui, effectivement. Et en fait, on joue encore aujourd'hui avec les osselets. Peut-être pas tellement ici en Suisse, mais on trouve les osselets encore en France. Par exemple, on peut les acheter dans les boutiques de jeux. Beaucoup de gens qui viennent de la Turquie ou du Proche-Orient, ils connaissent toujours les osselets. Ils jouent toujours avec. Aussi dans les pays de l'ex-Union soviétique, en Mongolie aussi, on joue avec
ça. C'est le jeu de base, en fait.
Oui, c'est incroyable comment cet os-là du mouton, comment il a fasciné l'homme depuis des milliers d'années. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Et chez nous, au Musée Suisse du Jeu, à la boutique, vous pouvez en acheter aussi des vrais osselets, bien évidemment.
Autre question de notre classe de 6e année, les filles et les garçons jouaient-ils ensemble?
Oui, parfois, ils jouaient ensemble, mais il y avait aussi des jeux pour les garçons et les jeux pour les filles. Par exemple, ce Pentelita, ce jeu, c'est dit dans la... Alors, il y a un auteur gréco-romain, Pollux, au 2e siècle après Jésus-Christ, qui dit que ça, le Pentelita, c'est le jeu préféré des filles.
Donc les garçons, a priori, ne jouaient pas à ce type d'osselet. Par contre, les adultes jouaient aux osselets.
Oui, aussi. Mais les garçons aussi jouaient aux osselets, on le sait, mais peut-être à d'autres types de jeux et pas forcément au Pentelita.
Dès qu'on parle de jeux, on pense souvent à un jeu d'argent aussi. C'est vrai qu'ils étaient interdits chez les Romains, les jeux d'argent.
On sait qu'il y avait des lois, en fait, effectivement, qui ont interdit le jeu d'argent, mais manifestement, ils n'ont pas fonctionné. Donc on a toujours joué pour l'argent, oui. Et même par exemple on connaît une lettre écrite par l'empereur Auguste où il décrit un jeu, comment il a joué avec les copains le soir après le dîner aux osselets. Ils ont joué aux osselets.
L'empereur Auguste. Oui.
L'empereur Auguste. Ils ont utilisé les osselets comme dés parce qu'ils ont 4 faces. Alors on a joué aussi, on les a utilisés comme dés. Et là, il décrit comment ils ont joué. Et c'est effectivement la seule règle de jeu de l'Antiquité qui nous est parvenue.
Du coup, ils jouaient comment? Alors, ils
lançaient 4 osselets. Et vu qu'ils ont 4 faces, 2 faces minces et 2 faces larges, pour chaque face mince, il fallait payer 1 dénar. Et on a gagné le jackpot lorsqu'on a lancé le coup de Vénus. C'est le coup où chaque osselet tombe sur une autre face.
Une face différente, n'est-ce pas?
Et ça, c'est bien évidemment, il a joué ça aussi avec intention, parce que Vénus était en fait l'ancêtre de sa famille, là, n'est-ce pas? Et là, il dit aussi voilà, que ses copains, le frère de Tiberius, Drusus, il avait perdu 20 000 sesterces, et lui, il aurait gagné 50 000. Il parle ouvertement de l'argent qui était en jeu.
Alors Cécile, on va retourner à la villa romaine du Vallon.
Oui, 250 ans après Jésus-Christ, où les archéologues donc ont trouvé 4 billes, un osselet, des pions. Mais comment faire quand il n'y a pas d'objet, justement, et qu'on cherche à nouveau les règles, etc. Eh bien là, on décrypte les textes des auteurs antiques ou les images peintes sur les fresques. Clara Agostini.
Alors là, c'est une fresque de d'Herculanum, donc nous sommes au 1er siècle après Jésus-Christ, en gros.
On est près de Naples, hein,
c'est
ça ?
On est tout près de Naples, tout à fait. Et sur une peinture pariétale, on voit 3 petits amours qui jouent à cache-cache. Il y en a un qui se cache derrière une porte, un autre qui est en train de partir en pas de course, et le troisième qui ferme les yeux et se le cache avec les mains. Et en plus, tout ça c'est doublé par un texte ancien de Pollux, qui est écrit au IIe siècle après Jésus-Christ en grec, et qui raconte à peu près comment ça doit se passer. Donc Pollux nous a laissé pas mal de descriptions de jeux, et notamment celle de cache-cache, même s'il y a une toute petite différence par rapport à la fresque, c'est qu'il dit que celui qui est au milieu reste assis, les yeux fermés. Ou bien quelqu'un d'autre les lui bouche, donc on a, voilà. Et puis après, il doit partir chercher ceux qui se sont cachés. Donc c'est des jeux qui existent depuis toujours, comme jouer avec le sable, par exemple, ou faire des ricochets. Ça, c'est un texte de Minucius Félix qui nous dit comment c'est le jeu. On ramasse sur le rivage un tesson de forme arrondie, poli par le battement des flots, puis, le tenant horizontalement entre les doigts, on se penche aussi près que possible du sol et on le fait tourner sur lui-même à la surface de l'eau. Le projectile doit ou bien raser la surface de la mer et nager en glissant d'un mouvement doux, ou bien faucher la cime des flots pour résurgir, jaillir, soulevé par les bonds répétés. Parmi les enfants, celui-là se donnait pour vainqueur, dont le tesson courait le plus loin et faisait le plus grand nombre de ricochets.
Ulrich Schaedler, quand on évoque les ricochets, le cache-cache, les châteaux de sable, on a l'impression que les jeux, ils ont finalement pas beaucoup changé.
Bon, certains, oui. Alors, on a plusieurs cas de figure, n'est-ce pas? Il y a certains jeux qui sont pratiquement éternel, c'est incroyable, il s'agit surtout de très souvent de jeux sans matériel comme le cache-cache par exemple, n'est-ce pas, ce sont aussi des jeux qui se transmettent d'une génération à l'autre oralement, n'est-ce pas, il y a presque jamais pendant des milliers d'années pratiquement personne n'a écrit des règles pour le cache-cache parce que tout le monde le savait. Puis il y a des jeux qui se transforment, n'est-ce pas, que l'on joue toujours mais d'une autre façon, comme par exemple le hobby, n'est-ce pas, on sait que les Romains, ils utilisaient ces pistes très précises que nous, aujourd'hui, on n'utilise plus. On a différents jeux pour jouer au bi, différentes règles. Et puis, il y a des jeux qui disparaissent complètement. Voilà. Donc, c'est comme ça.
Ouais. Est-ce que les enfants... Enfin, une question de notre classe, là. Est-ce qu'on jouait au loup?
Au loup. Vous connaissez le loup? C'est vous le loup par exemple et vous devez nous toucher, vous devez nous courir après
Des jeux comme ça. Il y a toute une liste de jeux de ce type donnée par Pollux que je viens de mentionner. Ce jeu précis n'est pas mentionné, mais il y a d'autres de ce type qui étaient connus déjà à l'époque.
Et les jeux avec les doigts, vous voyez tous ces petits jeux, la guerre des pouces, feuilles, papier, ciseaux, tout ce qu'on joue avec juste les mains en fait quand on n'a même pas d'objet.
Oui, là, on connaît aussi un certain nombre de jeux, mais feuilles, ciseaux, papier, pas. Mais d'autres jeux aussi assez similaires, n'est-ce pas? Surtout, par exemple, Micar Digitis, n'est-ce pas? Voilà, c'est le jeu de Mora. Aujourd'hui, en Italie, c'est connu comme Mora, où les deux joueurs, ils montrent au même temps un nombre de doigts. Il faut deviner le total, n'est-ce pas? Ça se joue toujours aujourd'hui et il y a même des championnats en Italie de Mora. Depuis l'époque romaine, oui. Ou même grecque. Encore plus ancien.
À quel jeu et comment les Grecs et les Romains jouaient-ils? L'exposition Les Jeux sont faits du musée romain du Vallon explore ces thématiques avec une question d'importance. Où jouait-on, Cécile Guérin?
Et oui, est-ce qu'on jouait à la maison, sur la place du village? À nouveau, il s'agit de décrypter les inscriptions latines qui se trouvent soit sur les monuments et les textes, en l'occurrence les textes de l'écrivain Pline le Jeune.
Pline le Jeune a vécu entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ et dans l'une de ses lettres, il raconte la vie d'un monsieur Spurinna, qui est âgé de presque 80 ans et qui vit un rythme très réglé, donc il fait du sport tous les jours en jouant à la balle. Alors c'est un indice pour nous pour voir qu'on joue à la balle à tout âge, puisqu'on voit des enfants qui jouent à la balle sur des fresques de Rome ou sur des mosaïques de Sicile, on voit des jeunes filles habillées en costume de bain. Donc on voit qu'en fait le jeu de balle se faisait à tout âge et un peu partout. Et encore quelque chose encore plus intéressant, je dirais tout aussi intéressant, c'est la présence de lieux pour jouer à la balle. C'est des salles de jeux de balle. Nous avons un témoignage à Avenches. Il y a un monsieur qui a offert à ses frais donc la construction d'une salle de jeux de balle, un sphéristerium. Alors ça, ce sont des attestations connues par les textes ou par les inscriptions, comme c'est le cas ici, relativement rares.
Alors on joue en majorité sur les places du village, mais aussi à la maison d'ailleurs, dans la villa de Vallon, les archéologues ont trouvé des fragments de tables de jeu. Clara Agustoni.
Oui, on a trouvé 3 fragments d'une plaque de marbre de Skyros, c'est du marbre violacé, très beau. Et sur ces fragments, on voit gravés des cercles ou de demi-cercles.
Attendez, je me rapproche parce que moi, je ne vois pas. Ah oui, d'accord. Alors, il s'agit de vraiment 3 bouts de cailloux
oui.
de marbre et sur lesquels vous arrivez à dire c'était une table de jeu.
Oui, alors ce sont ces décorations gravées qui nous permettent de l'identifier et de l'attribuer à cette utilisation, donc de table de jeu. Vous pouvez voir à côté, il y a la table d'avanche, partiellement complète, parce que c'est une bonne moitié qui est conservée. Et d'autres fragments, toujours en marbre ou en pierre assez précieuse, je dirais, donc de bonne qualité, sur lesquels on a gravé justement des cercles, hein, des cercles pointés. Et c'est ces dessins qui nous permettent d'identifier, de reconnaître les plateaux de jeu du 12 points.
Clara Agustini, le fait que vous ayez trouvé ces fragments à Vallon, c'est assez exceptionnel de trouver des tables de jeu, on va dire, dans des maisons privées, alors que d'habitude, on jouait plutôt sur les places publiques.
C'est l'impression qu'on a, oui, effectivement, puisque la plupart des découvertes sont faites soit dans des villes comme Avanches, soit dans des endroits publics, gravés même le sol de temples ou de basiliques, donc sur le forum. Et la découverte d'un plateau de jeu de 12 points ici à Vallon, c'est quelque chose qui nous interpelle. Donc il y a encore du travail de recherche, d'explication à faire là.
Clara Agustini, conservatrice adjointe du musée du Vallon. Ulrich Schädler, vous êtes, je le rappelle, conservateur du musée du jeu à la Tour de Paix. Ces tables de jeu, vous en avez découvert en Turquie, dans la ville d'Éphèse. Les Romains jouaient un jeu qui est aujourd'hui disparu, donc ce jeu des 12 points.
Oui, en fait, c'est un des jeux qui s'est transformé. En fait, c'est l'ancêtre de jeux que nous connaissons comme backgammon aujourd'hui, ou le trick-track. C'est la même famille. C'est la même famille de jeux. Mais, voilà, la façon dont les Romains jouaient à ça, on ne connaît pas précisément, mais on sait que cette façon-là n'existe plus.
Est-ce que les Romains jouaient aux échecs?
Non.
Question des enfants.
Non. Non.
C'est arrivé plus tard.
Non, c'est arrivé plus tard. Ça vient de l'Inde ou de Perse, environ 500 après Jésus-Christ.
Et est-ce que les riches et les pauvres jouaient ensemble à des jeux?
Ça, c'est aussi une question des enfants de notre classe de sixième.
Ensemble, probablement pas vraiment, parce que les différences entre les classes sociales étaient beaucoup plus nettes.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, oui, ben, vous, je sais pas si
mais ils jouaient au même jeu.
Ils jouaient au même jeu.
On a les mêmes jeux sous une édition pratiquement de luxe et des éditions plus simples.
Pourquoi est-ce que c'est important d'étudier finalement la culture du jeu dans l'Antiquité?
Bon, parce que le jeu fait partie de notre vie. C'est manifestement essentiel pour l'homme de jouer. C'est pourquoi tout le monde joue. On a toujours joué. Et ça nous intéresse comment le jeu ou les modifications, le changement dans la culture et pratique ludique reflète aussi les changements dans la société. Donc ça va ensemble. Et là, on peut faire des comparaisons et des découvertes assez intéressantes.
Notamment que maintenant, les enfants jouent avec les adultes. Mais ça, c'est récent.
Ça, c'est relativement récent. En fait, c'est venu au XVIIIe siècle, avec des nouvelles idées qu'on avait sur la famille, que le jeu de famille a été créé pratiquement. Alors, mais c'était une idée de la famille bourgeoise qui est là derrière.
Et les archéologues du futur, Ulrich Schädler, quel jeu ils trouveront? Parce qu'une tablette numérique, ça va être difficile à décoder, hein, sans électricité.
Oui, alors ça, certainement, tout ce qui est jeu vidéo va difficilement être, ne se conserve probablement pas ou plus ou difficilement.
Donc on ne saura pas à quoi jouer les enfants de maintenant.
Bon, il y a aujourd'hui aussi tout un mouvement un peu qui redécouvre aussi les jeux dits traditionnels, n'est-ce pas? Voilà, le marché est en plein essor des jeux dans les boîtes, n'est-ce pas?
Des jeux de société.
Des jeux de société, voilà.
Merci beaucoup Ulrich Schädler, directeur du musée suisse du jeu, à la Tour de Paix. Et puis on vous rappelle également cette exposition Les Jeux sont faits, c'est à découvrir jusqu'au 14 février 2016, donc on a le temps d'aller la voir donc, du côté du musée romain du Vallon. Et vous à la Tour de Paix, vous avez quoi en ce moment?
À la Tour de Paix, encore jusqu'au 19 avril, on a l'exposition Jouer avec l'Antiquité sur les jeux des derniers 200 ans qui parlent de l'Antiquité grecque et romaine.
CQFD sur la première.